Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour et bienvenue, c'est l'actualité scientifique de la semaine avec vous, Caroline Lachowski, bonjour.
Bonjour Patrick.
Plein de sujets variés encore aujourd'hui, avec en fin d'émission, rendez-vous avec la presse spécialisée, la physique quantique rend-elle fou, c'est dans Science et Vie, et puis Origine de la vie, le dernier secret de Stanley Miller, c'est dans Ciel et Espace. En deuxième partie avec vous, on va se poser plein de questions sur le fonctionnement de notre cerveau au quotidien. Nous serons avec Laurent Cohen, qui est professeur de neurologie, et puis la rédaction du magazine La Recherche. Et puis, dans cette première partie d'émission, des innovations multimédia avec le forum Net Explorateur et de l'importance économique de la biodiversité. Bienvenue. Micro-méga. Mais tout de suite, et oui, les voici, les voilà, les infos que nous avons triées pour vous dans l'infosphère.
Fermé pour inventaire sur décision de l'armée américaine, le principal et le plus ancien laboratoire de recherche en défense biologique des États-Unis a suspendu pour au moins 3 mois toute recherche impliquant des agents pathogènes. 6 mois après le suicide de l'un de ses chercheurs, mis en cause par le FBI dans les attaques à la poudre d'anthrax en 2001, le célèbre laboratoire de Fort Derrick dans le Maryland a donc enfin décidé de faire le ménage dans son stock de produits dangereux, agents pathogènes, virus, bactéries et autres toxines stockées depuis trop longtemps dans ses frigos. C'est en effet après avoir constaté l'absence de certains échantillons historiques dans sa base de données que le colonel en charge de l'institut a décidé cette fermeture afin de procéder à un inventaire minutieux salué par les chercheurs qui soulignent dans le New York Times et dans le plus parfait anonymat que si les conditions de sécurité de ce laboratoire de l'armée laissent effectivement à désirer, elles sont toutefois bien meilleures que dans la plupart des laboratoires universitaires qui ont éclos dans tout le pays depuis 2001, je ne sais pas vraiment si ça rassure.
LHC, le retour. Le LHC, vous vous en souvenez, c'est l'accélérateur géant de particules à la frontière franco-suisse qui doit nous révéler quelques mystères de la matière et qui est tombé en panne quelques jours après son lancement en septembre dernier. Nouveau calendrier établi cette semaine avec un redémarrage fixé fin septembre. Première collision de protons à une vitesse proche de la lumière fin octobre si tout va bien. Cette fois-ci, on est prudent. On a pris des mesures pour renforcer les systèmes de protection. Tout ça va coûter entre 20 et 26 millions d'euros, mais ça va marcher, assure le nouveau directeur, le physicien allemand Rolf Dieter Heuer. Il s'est d'ailleurs démarqué nettement de son prédécesseur, le français Robert Aymard, qui a fait, selon lui, trop de communication, de pub autour du LHC. En septembre, donc, pas de démarrage en grande pompe, pas de petit four moléculaire, comme en octobre dernier où 43 délégations étaient venues du monde entier.
C'est le plus ancien fossile animal jamais découvert. 635 millions d'années environ pour ces traces de fossiles d'éponges extraites lors d'un forage dans le sable du désert de la péninsule arabique par la compagnie pétrolière d'Oman. Analysées ensuite par un géophysicien américain qui répond au doux nom de Dr. Love, ces traces fossiles, les spécialistes appellent ça des échos de fossiles parce qu'il ne s'agit plus que de très subtils résidus chimiques, normal, au bout de 635 millions d'années ça s'use, les éponges, mais leurs signatures chimiques sont bien les mêmes que celles des démosponges ou éponges siliceuses, toujours présentes à toutes les profondeurs et dans toutes les mers du globe. Ces animaux, qui sont parmi les plus primitifs de la planète, auraient donc plus de 635 millions d'années, ce qui fait dire au Dr. Love, dans la revue Nature, qu'il s'agit peut-être là de la première forme de vie animale sur Terre et donc de notre fameux ancêtre commun. En d'autres termes, nous serions tous des traces d'éponges.
Appelez-moi Bob. Non, sérieusement. Et si le vivant était la plus grande entreprise de la planète? En ces temps de crise économique, certains scientifiques établissent le parallèle avec la crise de la biodiversité. En Irlande, par exemple, une étude sérieuse a même évalué le prix du travail des vers de terre dans les sols irlandais à 700 millions d'euros par an. Une façon de montrer que les vers de terre sont aussi des contributeurs à la richesse d'un pays à travers leur action dans le sol. Cela paraît fou? Eh bien, écoutons Robert Barbeau, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, directeur de recherche au Muséum d'Histoire Naturelle, rencontré lors d'une récente conférence de presse sur ce thème de la biodiversité au CNRS. La biodiversité, c'est vrai que ça paraît toujours compliqué. Même les scientifiques ne s'y retrouvent pas toujours, dites-vous, Robert Barbeau.
Les scientifiques, ça comprend tout le monde. Ça comprend les physiciens, les mathématiciens, les chimistes. Vu la spécialisation du monde scientifique, il n'est pas a priori anormal qu'un concept qui vient de la biologie et de l'écologie soit mal compris par des gens qui n'ont pas le temps de se pencher dessus. Moi, si on me posait des questions sur la physique, je serais pas forcément à l'aise.
Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, la biodiversité ?
C'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est multiple, le nom l'indique, parce que la plupart du temps, on l'aborde par justement ce côté biodiversité, sans voir l'unité qui est cachée derrière, et donc on tombe dans le piège de l'énoncé du million d'espèces plus ou moins connues, c'est-à-dire qu'on a identifié, puis on commence à parler des dizaines de millions d'espèces inconnues, sans oublier les centaines de millions d'espèces qui ont disparu depuis l'origine de la vie. Donc, en passant par tous les éléments qui composent la biodiversité, évidemment, on noie l'interlocuteur, quel qu'il soit. En revanche, si on se dit, mais c'est du vivant dont on parle, du tissu vivant de la planète, quelque chose qui a commencé il y a 4 milliards d'années, donc qui a une origine commune, et bien sûr, c'est caractérisé par la diversité, déjà, on se retrouve mieux. Nos paysages, ça fait partie de la diversité, nous faisons partie de la diversité. Donc c'est un peu sur cet angle-là, moi, que je préfère attaquer la question de la biodiversité, tissu vivant de la planète, auquel on appartient, qui a certes des milliards d'années de recul, d'expérience, et je pense que ça change complètement la vision qu'on peut en avoir. Tout d'un coup, ça devient sérieux, ça inspire le respect, et tout d'un coup, le petit moustique ou le moucheron qu'on prenait pour pas grand-chose, on se dit, mais oui, mais lui, ça fait des millions d'années qu'il est là, il a lutté pour vivre, il a réussi à résoudre des problèmes que nous, en ce moment, on a du mal à résoudre, on se pose des questions pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ah ben, on est tous dans le même bain, c'est notre famille, voilà, ça change.
Relier justement la crise économique actuelle et biodiversité, coexistence des espèces.
Je crois que dire que la biodiversité, le vivant, c'est la plus grande entreprise planétaire, c'est une entreprise mondiale qui produit de la matière, qui a créé des inventions, et on en fait partie, on en dépend. Le calcaire, par exemple, et les gens qui font des maisons, ça vient d'où le calcaire ? C'est la vie passée qui a fixé le gaz carbonique, qui a fabriqué ce calcaire. Donc, beaucoup d'industries reposent sur les activités du vivant pour travailler. Donc, faire un lien entre les supports de la vie, donc la biodiversité et les activités humaines, donc les activités industrielles et économiques, ça avait besoin d'être fait.
Alors en ce moment, c'est l'anniversaire de Charles Darwin. Souvent, il a été mal compris avec cette histoire de survie du plus apte. Et vous, vous parlez aussi de coopération entre les espèces.
Mais quand on lit Darwin, on voit qu'il n'était pas du tout caricatural, mais c'est vrai que l'image de la lutte pour la vie, qui est quand même une réalité, il faut lutter pour vivre, pour trouver à manger, pour éviter d'être mangé, bon, on a éliminé nos prédateurs, mais on est quand même victime de maladies, et on continue de lutter pour ça, ça fait oublier une chose, c'est qu'on est une espèce sociale, et que notre succès jusqu'à présent est lié au fait qu'on soit social, qu'on soit capable de coopération. On ferait bien d'y réfléchir un peu si je reviens à la question justement de la crise économique et financière et autres, parce qu'on a créé des inégalités gigantesques, on ne va pas revenir sur les salaires des uns et des autres, mais ça fait partie du problème et c'est même au cœur du problème. Donc se souvenir que la solidarité, la coopération, c'est un des éléments du succès du vivant, et quand on analyse la dynamique de la biodiversité sur ces 4 milliards d'années, on s'aperçoit que si elle a réussi à faire des sauts et à réussir, c'est que précisément elle a su coopérer. Et si j'en reviens à l'espèce humaine, on a domestiqué des plantes et des animaux pour pouvoir nourrir une population non ça, c'est de la coopération avec des vaches, des chèvres, etc., etc., du blé, du riz, du maïs. Donc la coopération est un élément essentiel du succès du vivant et ça équilibre avec les aspects compétition, lutte pour survivre.
Alors vous pourriez être anxiogène avec des chiffres importants, d'espèces qui disparaissent chaque année. On a souvent parlé de cela. Vous, vous ne voulez pas, pourquoi? Vous avez peur de faire peur?
Peur de faire peur, non, mais je pense qu'une fois qu'on a compris quelque chose était important, par exemple, si on parle de guerre, on sait bien que la guerre, il faut l'éviter. Est-ce qu'il y a besoin de compter le nombre de morts que ça va faire? Bon, ben là, c'est un peu la même chose. Dégrader le tissu vivant de la planète, c'est-à-dire nos milieux de vie, on voit bien que c'est pas intelligent. Donc, pour moi, ça me paraît suffisant. Puis ensuite, on va se dire comment on va faire pour repartir sur de bonnes bases.
Comment on va faire?
Ben, c'est précisément réconcilier l'homme et la nature, parce que la plupart des problèmes qu'on connaît aujourd'hui sont liés au fait qu'on a dissocié les deux et qu'on a créé un monde économique qui s'est construit comme si il ne reposait pas sur des ressources qui sont le résultat du travail du vivant. Et à partir du moment où on rapproche les deux, on a conscience des deux, ce sera beaucoup plus facile pour résoudre les problèmes, parce que c'est tellement vital et tellement essentiel qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Et voilà, on a du pain sur la planche. Merci Robert Barbeau, vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre « Un éléphant dans un jeu de quilles, l'homme dans la biodiversité », c'est édité au Seuil. À noter aussi qu'à Chicago cette semaine se tient une grande réunion scientifique qui verra entre autres le lancement d'une grande opération de conservation des variétés de plantes alimentaires, céréales entre autres. C'est donc de biodiversité dont il s'agit, le but étant de sauver 100 000 variétés menacées, on en reparlera. Un site intéressant enfin, celui de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, www.fondationbiodiversité.fr.
Roger Tranquility, we copy you on the ground.
Il semblait nager dans l'air.
Maintenant ça va mieux, on peut à nouveau respirer, merci beaucoup. Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant. L'alunissage en douceur a parfaitement réussi.
Parfaitement réussi, ouais.
Micro-méga avec maintenant les nouvelles technologies. Bonjour Dominique Désonnet.
Bonjour Patrick.
Il en était question les 5 et 6 février dernier au Sénat à Paris. Drôle d'endroit hein, pour le forum Net.
Absolument.
Explorateur qui se penchait sur les innovations émergentes en matière de nouveaux usages de l'Internet et du numérique. Évidemment, vous y étiez.
Oui Patrick, l'observatoire Net Explorateur créé en 2007 réunit un réseau d'une centaine d'experts et correspondants internationaux. Et cette année, ils ont imaginé un palmarès mondial des initiatives les plus prometteuses de la culture numérique. Le Net Explorateur 100.
Qui a fondé tout ça?
Net Explorateur est le fruit d'une rencontre entre deux experts du management d'entreprise, Martine Biguedin, spécialisée dans les ressources humaines, et Thierry App, spécialiste de la communication d'entreprise. Mais attention Patrick, n'est pas un Net Explorateur qui veut. Certains critères sont requis, d'ailleurs, comme nous l'explique Thierry App.
Alors les premiers critères, c'est l'originalité. Il faut que ce soit des projets numériques foncièrement originaux par rapport à ce qui existe. Deuxième critère, c'est celui de l'impact prévisible. Je prends un exemple, Twitter l'année dernière, où très clairement, personne n'avait imaginé la campagne électorale d'Obama dépendrait tant de Facebook et Twitter. Le troisième critère, c'est le critère de l'exemplarité. Il y a beaucoup de choses qui existent sur le net, des choses intéressantes, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas forcément exemplaires. On s'est donné ce critère dans la sélection des 100 explorateurs de l'année.
Comment réintroduire des valeurs du web dans la réalité?
Première idée, il y a une convergence de l'ensemble des développements du web, que ce soit le web 2.0, l'internet mobile, l'internet objet, la géolocalisation, qui se combinent. Cette convergence aboutit à une créativité d'initiative fantastique, qu'on voit bien dans notre Explorateur 100. Seconde démarche, c'est qu'il y a un problème de management. C'est que les gens se réalisent de moins en moins dans la vie, et le web devient le réceptacle d'un monde parallèle, où vous avez la possibilité de pouvoir avoir des frontières classiques sociales qui disparaissent. Et dans ce cadre-là, comment on fait pour que cette créativité, cette volonté de partager en commun qu'on trouve sur le web, on puisse l'utiliser dans la vie réelle?
Il y a aussi les grands projets. Et là, c'est tout un pays qui s'y met avec la Corée du Sud.
Alors, la Corée du Sud est l'invité du forum parce que, d'abord, ils ont 27 millions d'internautes, 85% de la population utilise des courriels. Et le projet emblématique qui a été primé, qui est une ville du futur, dont la construction se fait au fur et à mesure. Il y a une première partie qui a été faite, mais elle continue là. Ça s'appelle New Songdo City, c'est à 60 km de Séoul. Et la particularité de cette ville, c'est qu'elle a été pensée de A à Z avec un mode de vie 100% numérique et 100% écologique.
On a entendu, Dominique, le mot Twitter.
Twitter, un très beau système qui a été inventé il y a quelques temps, qui est un petit peu comme du Facebook ou du blog, si vous voulez, mais microscopique, qui peut se porter même sur des téléphones portables et qui permet de gérer sa tribu partout où vous êtes. Voilà, je suis en train de faire quelque chose, et bien je suis en train de participer à l'émission Micro-Méga, et bien j'envoie immédiatement un petit mail à tous les membres de mon micro-blog sur et grâce à Twitter.
Alors donc, ils se sont réunis pendant 2 jours, ils viennent du monde entier, ils ont innové. Alors faites-nous saliver un petit peu, quelques exemples qui vous ont plu.
Oui, par exemple, le projet du Kenya, ou Shaidi, qui signifie témoignage en Swahili, et qui est un système permettant aux populations d'informer en temps réel de situations de crise et d'émeutes via Internet, et puis aussi également à partir de son portable. Vous avez aussi, pour l'Afrique du Sud, Wizit, et c'est le gagnant d'ailleurs de cette édition 2009 Net Explorateur. Wizit offre des services bancaires sur téléphone mobile pour effectuer des paiements de factures, de transferts d'argent de personne à personne, régler ses courses, retirer de l'argent au guichet automatique.
Ben, n'hésitez pas, parlez-nous maintenant du projet indien.
Ah, le projet indien, le site Zoho propose en même temps que le site un logiciel de traitement de texte gratuit qui permet de créer, d'importer, de partager, archiver des documents, tout cela en ligne, mais aussi hors la ligne à volonté, et notamment en cas de coupure de connexion. En France, beaucoup plus près de nous, il y a My Major Company, un site sur lequel les internautes peuvent devenir coproducteurs d'artistes par leur investissement en argent et leurs conseils, avec participation aux éventuels bénéfices.
Alors pour finir, Net Explorateur, c'est le moyen aussi de voir ce qui va sortir des labos de recherche dans ce domaine du multimédia. Quelques pistes.
Alors, l'ordinateur personnel, votre PC ou votre Mac, eh bien c'est dépassé à la limite du ringard. C'est en tout cas ce que m'a dit Frédéric Kaplan, ingénieur et docteur en intelligence artificielle. Il a travaillé pour Sony Lab et exerce aussi à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. Il nous propose l'ordinateur du futur, date de sortie courant 2009.
C'est vrai qu'on fête cette année les 25 ans du Macintosh, et puis quand vous regardez finalement les ordinateurs personnels récents, ils sont assez proches en fait de ce qu'était le Macintosh il y a 25 ans. C'est toujours le même principe, c'est une machine très adaptée au travail personnel. Si vous voulez écrire un texte, si vous voulez composer de la musique, c'est parfait. Mais entre-temps, nous on a un petit peu changé, on fait d'autres choses avec les ordinateurs. Il est temps, je pense, aujourd'hui de repenser ces interfaces pour avoir des interfaces qui sont adaptées par exemple à la manière dont on met la musique aujourd'hui. Si vous voulez mettre un morceau de musique, vous voulez le faire de n'importe où depuis la pièce, pas en tenant une télécommande et avec un simple geste. Si vous avez un coup de téléphone, vous pouvez arrêter ce morceau de musique en vous tournant vers la machine et en lui disant stop. Et donc, pour arriver à ce genre de choses, vous devez combiner beaucoup des technologies qui ont émergé dans les 10 dernières années. Vous devez combiner ces nouveaux systèmes d'interaction gestuelle, mais aussi le principe de la robotique qui va permettre, par exemple, dans ce cas, d'avoir un écran qui va progressivement tourner et vous suivre où que vous soyez, en fait, dans votre salon. Et c'est un nouveau type d'ordinateur qui va pas, en fait, remplacer l'ordinateur personnel, mais qui va être adapté à ce genre de choses qu'on fait à plusieurs. Et tout ça se fait naturellement sans que vous ayez à vous loguer, par exemple. On oublie toute cette notion un petit peu rigide qui existe dans l'ordinateur personnel pour arriver à quelque chose de beaucoup plus naturel et fluide.
Il faut beaucoup de design pour faire passer ce type de concept.
Le design, c'est à la base, en fait, de ce type de recherche. Il s'agit de penser la forme de ces objets dès le départ avec des designers, et c'est ce que nous avons fait. Il me semble que quand on fonde une société aujourd'hui, il faut mettre le design à part égale avec l'ingénierie.
Mais comment je vais faire pour utiliser mon ordinateur, moi, après avoir entendu ça?
Eh ben voilà, faut presque le jeter. Non, on va attendre encore un petit peu. C'est encore en état de recherche, même s'il y a une société qui a été fondée pour la diffusion de ces produits. En tout cas, pour revivre les débats et découvrir tous les projets par rapport à Net Explorateur 2009, eh bien, vous allez sur le site www.netexplorateur.org.
Merci Dominique. Micro-Méga, c'est donc l'actualité scientifique avec un espace-temps différent. Dans quelques instants, on se retrouve juste après la synthèse de l'actualité sur RFI. <t'en>